Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce 20 octobre, le Premier ministre britannique demande à l'Union européenne un report du Brexit. Le débat en France sur le sort des djihadistes français détenus par les Kurdes dans l'est de la Syrie. Nouvelle manifestation des indépendantistes à Barcelone et puis les Wallabies éliminés de la Coupe du monde de rugby par le 15 de la Rose. Les députés britanniques ont demandé à Boris Johnson un report du Brexit sans se prononcer sur l'accord obtenu à Bruxelles. Le vote 322 contre 306. Réaction de Boris Johnson, le Premier ministre.
And neither does the law compel me to do so. I will tell our friends and colleagues in the EU that further delay would be bad for this country, bad for our European Union and bad for democracy. So next week, the government will introduce the legislation needed for us to leave the EU with our new deal on October the 31st.
Et quant au chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, il parle d'une victoire pour la démocratie.
We believe that ultimately the people must have the final say on Brexit, which actually only the Labour Party is offering. Today is an historic day for Parliament because it said it will not be blackmailed by a Prime Minister who is apparently prepared once again to defy a law passed by this Parliament.
Et puis dans les rues de Londres, il y avait une manifestation monstre anti-Brexit. Reportage Béatrice Leveillé, l'envoyée spéciale de Radio France Internationale.
One way. Une seule solution, un second référendum. Le slogan de la manifestation, repris par une foule hétéroclite au milieu de drapeaux irlandais, gallois ou écossais et de pancartes qui réclamaient entre autres plus d'immigration. Explication avec un jeune manifestant.
Parce que je pense que l'immigration contribue à l'économie. Il y a des gens qui viennent dépenser de l'argent ici, mais qui viennent aussi pour des raisons morales. Nous avons des millions de Français, d'Allemands et d'autres nationalités qui vivent et travaillent. Ici. C'est un grand pays multiculturel, il n'y a pas de raison de nous isoler nous-mêmes.
Une sourde colère animait le cortège.
Je suis Peter Greenhouse de Bristol, je suis médecin. Je me sens européen dans mon cœur. Le Brexit, ça diminue notre valeur dans l'Europe et les opportunités pour nos enfants, pour vivre et pour travailler partout en Europe.
Paul est français, il vit dans la campagne anglaise, il a fait lui aussi le déplacement à Londres parce qu'il espère encore un rebondissement.
S'il y a encore un moyen pour ou l'arrêter ou le modifier au point de pouvoir diminuer les dégâts, ce serait la meilleure chose. En ce moment, tout est tellement inattendu, les choses se passent tellement rapidement que tout peut changer.
Le coup de théâtre ce samedi a été l'adoption d'un nouvel amendement salué par les manifestants parce qu'il a permis un report du vote sur l'accord négocié par Boris Johnson. Le Brexit, une affaire à suivre.
Béatrice Leveillé pour RFI. En France, le débat sur la situation des combattants étrangers et aussi des femmes et des enfants détenus par les Kurdes dans l'est de la Syrie après l'offensive turque. Le débat fait couler beaucoup d'encre, comme nous l'explique Nicolas Falaise pour RFI.
C'est un magistrat de haut rang qui l'affirme. Il y a des risques à ne pas rapatrier les ressortissants français détenus par les Kurdes en Syrie. David Depas, coordinateur du pôle antiterroriste du tribunal de Paris, redoute le retour incontrôlé de djihadistes pouvant ainsi commettre des attentats en Europe. Autre scénario dangereux, selon lui, la reconstitution de groupes terroristes particulièrement aguerris et déterminés en Syrie et dans la région. Il faut une volonté politique de rapatriement, assène le magistrat antiterroriste. Simultanément, deux comités de l'ONU, celui des droits de l'enfant et celui contre la torture, saisis par des familles, demandent aux autorités françaises de prendre des mesures pour protéger les droits des ressortissants français détenus par les Kurdes syriens. Les familles et leurs avocats ont également écrit au président français Emmanuel Macron pour lui demander l'organisation du retour en France de ces personnes, majoritairement des femmes et des enfants. Des familles qui demandent aux autorités de ne pas transférer ces ressortissants français en Irak.
En France, toujours la grève surprise de la SNCF, les conducteurs et les contrôleurs ayant décidé d'exercer, je cite, leur droit de retrait après un accident mercredi dernier sur un passage à niveau. Il y a eu plusieurs blessés, dont un conducteur de train. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, lui parle de, je cite, une grève sauvage.
C'est un détournement du droit actuel. La volonté de ne pas respecter la loi sur la grève dans les services publics, c'est évidemment inacceptable. Je vois parfaitement ici que si un certain nombre de personnels de la SNCF se rendent responsables de ce détournement, il y en a beaucoup d'autres qui essaient de faire de leur mieux pour apporter l'information susceptible de pouvoir être apportée aux clients qui sont parfois bloqués et qui attendent de l'information. Mais j'ai demandé à la SNCF d'examiner toutes les suites qui pouvaient être données, et notamment les suites judiciaires, car il n'est pas acceptable, je le redis, que le détournement de la loi mette autant de Français dans des situations extrêmement dommageables et parfois extrêmement critiques.
Et puis les usagers, les clients de la SNCF, qu'en pensent-ils ? Témoignage recueilli par RFI.
Mon TER a été annulé, donc du coup j'ai dû prendre un TGV pour Paris et maintenant il n'y a plus de place dans les trains. Bah, j'ai essayé de demander s'il y avait moyen d'avoir des billets, on va dire, sans place assise. On m'a dit que c'est plus possible.
Je suis grand-père depuis 3 heures, là. Vous voyez, je rentre chez moi pour voir ma petite fille, puis c'est pas la peine, bande de feignants.
On évoque un droit de retrait. Quand on exerce un droit de retrait 4 jours après un problème, c'est pas un droit de retrait, c'est une grève déguisée. Et que bizarrement, le jour des vacances, comme ça c'est plus efficace. Donc on est toujours pris en otage par les salariés de la RATP ou de la SNCF, ou voilà, donc c'est formidable.
En Espagne, nouvelle manifestation des indépendantistes à Barcelone, 6e nuit de mobilisation consécutive après la décision du tribunal suprême de condamner 9 leaders séparatistes à des peines de prison allant de 9 à 13 ans. Reportage François Musso pour RFI.
Place Urquinaona, tout près des célèbres Ramblas et du siège de la police nationale, la tension est très palpable. La veille, une véritable bataille s'est livrée entre manifestants et parmi eux de jeunes radicaux, et en face les forces de l'ordre, des brigades anti-émeutes armées jusqu'aux dents, matraques, boucliers et armes tirant des balles en caoutchouc. Et les séparatistes, eux, entendent bien rester sur place le temps qu'il faudra pour montrer leur détermination. Tous parlent du verdict très sévère contre les 9 leaders sécessionnistes. C'est le cas de Laura, étudiante en droit.
Il y a plein de gens dans la rue qui ne sont pas spécialement indépendantistes. Ils sont venus pour la justice à cause du verdict injuste et voyant que l'Espagne bafoue les libertés.
Tous sont convaincus que l'Espagne n'est pas une vraie démocratie, que les droits des Catalans sont piétinés et que le droit à l'autodétermination n'est pas pris en compte et ne le sera jamais. Ici, on enrage contre les violences policières, chargeant contre les journalistes ou les simples manifestants, mais beaucoup sont conscients que la violence vient aussi des rangs séparatistes. C'est ce que dit Oriol, jeune informaticien venu à pied de Mataró, à une trentaine de kilomètres de Barcelone.
C'est un blocage, on n'avance pas. Certains répondent par la brutalité policière et les autres se défendent en alimentant les échauffourées. Bref, ça ne va nulle part.
L'escalade de la violence est bien ce que craignent tous les Catalans, qu'ils soient indépendantistes, espagnolistes ou indifférents. Et tous de se demander jusqu'à quand dureront les hostilités.
Au Liban, la colère des Libanais contre la classe politique, des milliers de manifestants réclament la démission du gouvernement. Ils accusent les leaders politiques de corruption et de mauvaise gestion. Le pays est paralysé, la dette publique est aujourd'hui de 86 milliards de dollars, plus de 150% de son PIB. Écoutez cet activiste, Nehamat Badireddine.
We would like to hold the politicians accountable who since 1990 have caused the poverty of the Lebanese people and made them starve. It is forbidden for any Lebanese official to travel outside the country until the money is returned and they are tried. We are looking to form a new political authority through an early parliamentary election that will really represent the people.
Et maintenant, l'analyse de Karim Émile Bitar, professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Il y a en effet un ras-le-bol assez généralisé qui a connu très peu de précédents dans l'histoire du Liban, des Libanais du nord au sud, de toutes les communautés religieuses qui trouvent le courage de critiquer leurs propres dirigeants politiques, de s'en prendre aux symboles de leur propre communauté. On sort un peu des clivages traditionnels, on s'oriente sur des revendications sociales, économiques, sur la cherté de la vie, sur des réclamations liées à la dignité humaine. Depuis près de 2 ans, on sentait couver sous la cendre une véritable colère populaire Le Liban traverse une grave crise économique. C'est un pays très endetté, 150% du PIB. C'est un pays qui est en récession. La croissance est très, très faible ou parfois négative. Et ce gouvernement a quand même décidé d'imposer des mesures d'austérité qui frappent plus particulièrement les catégories populaires. Et c'est cela qui a semblé particulièrement injuste en cette période difficile.
Le candidat à la présidentielle américaine, Bernie Sanders, a repris la campagne après sa crise cardiaque en promettant de venir en aide aux sans-abri. La santé du sénateur Sanders soulève des questions sur sa capacité à rester dans la course à l'investiture démocrate. Âgé de 78 ans, il s'est déclaré de retour et plus que prêt à faire campagne pour ses politiques de justice sociale.
The affordable housing program that we will implement will establish the funds necessary to build nearly 10 million new apartments and homes throughout this country. Our program will eliminate homelessness in America.
Bernie Sanders a été rejoint à ce meeting à New York par la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, une démocrate de premier plan, souvent la cible d'attaques du président Donald Trump. L'équipe du sénateur Sanders espère que sa présence au cours de sa campagne électorale l'aidera à lutter contre sa rivale, la front runner, la démocrate Elizabeth Warren. En Australie, le gouvernement fédéral affirme que seront rajoutés 2 médicaments contre la fibrose kystique au Pharmaceutical Benefits Scheme qui aideront à augmenter l'espérance de vie des Australiens atteints de cette maladie. Symdeko est listé dans le PBS pour les patients de plus de 12 ans présentant des mutations génétiques spécifiques, tandis que l'inscription d'Orkambi est en cours pour inclure les enfants de moins de 5 ans. Le ministre de la Santé fédérale, Greg Hunt, a déclaré que cette mesure va améliorer la qualité de vie des patients.
These medicines would otherwise be $250,000 a year and will now be available for as little as $6.50 a script. That means real hope, quality of life, extended life and an extraordinary outcome for wonderful cystic fibrosis patients and their families.
La compagnie aérienne Qantas a effectué le vol le plus long de son histoire. L'avion a parcouru 16 000 km de New York à Sydney en 19 heures. 40 passagers et membres d'équipage ont été équipés d'une technologie permettant de mesurer leur bien-être. Le directeur de Qantas, Alan Joyce, a déclaré que la compagnie aérienne préparait une analyse de rentabilité pour des vols long courrier plus réguliers.
We need to show that this can be done safely, it can be done with the rest that we have for the crews. And we believe that this data, this information will help us get there. And we need to get the product right. We're looking at 4 classes on the aircraft.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximale de 27 degrés, Adélaïde 19, Melbourne 17, Hobart 17 également, Canberra 21, Sydney 21, Brisbane 29 et à Darwin il fera 37 degrés, Alice Springs 33. Un rappel des grands titres de ce dimanche 20 octobre. Le Premier ministre britannique demande à l'Union européenne un report du Brexit. Nouvelle manifestation des indépendantistes à Barcelone. Et puis les Wallabies éliminés de la Coupe du monde de rugby par le 15 de la Rose. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.